します。よいしょ。あ、下がってますよ。そこから、そこから道に。
あ、そっち、島根。島根、あれ、島根、僕は、ひな、で、リスン、ひ、はい。Double 3, on lance des sons, qui est tout simplement pour multiplier les détails d'un service, service web, service HTTP, non mais je ne comprends pas. Vous m'entendez ?
C'est
pas vrai. Donc en fait, il lance des plugins, des sons, qui vont réellement faire le.
Merci. Des sons qui vont réellement faire le travail, en fait, de vérification. L'intelligence de Nagios n'est pas là, pas du tout. Elle est complètement dans les sons, c'est elle qui a l'intelligence. La chose ne sait rien faire, c'est un ordinateur. Au moment où il a le résultat, le processus qui est ici, qui lui a réellement lancé l'action, écrit un fichier plein, qui sera lu, donc le centre humain à peu près, par le bénéficiaire principal. Lecture de fichier plein qui, on va voir, va poser des petits soucis de performance. Toutes les 10 secondes, 15 secondes, il écrit un fichier plein avec tous les états des hôtes et des services. Encore un fichier plein. Il va être moins que du Unity. Moi j'ai de la marre. Donc on va commencer par la gestion de conf. Conf qui est vraiment. Qui fait peur à tous les administrateurs de Nagios au début. Moi le premier, j'ai mis une semaine pour mettre en place mon premier Nagios, c'est comme ça. J'étais juste. Ensuite, on va voir tous les. Tout ce qui est important dans les grands environnements, distribuer la charge et assurer la disponibilité. Et là, on va un peu moins évoluer. Donc, typiquement, là, en fait, c'est un exemple que j'ai au travail. Je gère 500 serveurs, on développe. Et 7000 services. Si on n'utilise aucune technique avancée de Nagios, ça fait 60 000 lignes de compte au minimum. Les développeurs savent que. La complexité est exponentielle en nombre de lignes. C'est pareil qu'un fichier sur 60 000 lignes, c'est ingérable. Donc on va essayer de faire en sorte que. Parce que, il y a encore quelques années, j'étais assis à votre place. Un professeur qui était là, j'étais assis à me lever. Et le professeur arrive et dit une phrase qui restera gravée dans le mémoire : un bon informaticien est fainéant. Ben, c'est vrai. J'ai toujours essayé d'être un bon informaticien. Surtout que les administrateurs sont très bons informaticiens. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas inventé de technique pour factoriser leur configuration. Ils vont piquer ça des développeurs. Alors, oula, c'est ça. Donc, on va utiliser la technique simple du développement objet. Utiliser en fait un modèle. Internet, dont les hôtes et les services vont pouvoir prendre leur configuration. Aussi, on va pouvoir factoriser beaucoup de propriétés dans ces modèles qui ne seront jamais supervisés, ce sont juste pour aider à la configuration. Ils vont, les hôtes réels et les services réels vont, quant à eux, prendre les objets et ça va faire beaucoup, beaucoup moins libre. Un petit exemple, ici en fait, c'est un service qui check un truc HTTP. On définit un template. Template, il y a un nom et il se remarque par register 0. Ça veut dire qu'en fait, il ne sera pas réellement supervisé parce qu'en général, il n'est pas complet. Il n'a pas toutes les propriétés nécessaires. On lui définit une commande de check. C'est tout simplement la sonde qui fait réellement le travail. Check HTTP, simplement, ça regarde le port 80, ça prend quelques infos, ça vérifie que c'est bon. Puis voilà. Bien sûr, le check HTTP, enfin, là, pour superviser un service web, on lance le check HTTP et on prévient les admins web. Normal, on ne peut même pas prévenir les admins du backup, le serveur de même, enfin, le web est tombé. Comment est-ce qu'on fait dans un service réel pour y faire appel? On utilise le mot-clé use. qui lui fait tout simplement appel au nom. On lui donne un petit nom, HTTP, qui s'applique sur un serveur web 1, et c'est tout. On lui met pas, on lui met ni de check command, ni de contact pour faire plus. On lance le démon, et qu'est-ce qu'on va avoir en mémoire, donc le service réellement configuré? Service description, on a là, hostname qui est là, commande contact group qui vient de là. Si on utilise ça sur beaucoup de services, on élimine énormément de lignes de configuration, simplement. Le problème, c'est que cette technique n'est pas suffisante. Donc, typiquement, un serveur ou un service va avoir plusieurs propriétés. C'est un serveur Linux, Windows, un file serveur, un web serveur, il n'y a pas de même personne. Serveur de prod, serveur de qualification. On ne va pas prévenir en la pleine nuit un serveur de qualification, on s'en fiche rien. Typiquement, si on n'utilise que des templates simples, on a besoin juste pour ça de 8 templates. Si on veut faire une modification, il faut la faire à 4 endroits différents. Les administrateurs, ils ne veulent pas. Est-ce qu'il y a des développeurs Java dans la salle? Levez la main. Désolé. Donc, un élément va pouvoir hériter ses propriétés de plusieurs modèles. Et ça sera la première valeur trouvée qui va être prise en compte. Si la valeur est définie dans les modèles suivants, ça ne sera pas pris en compte. C'est vraiment la première qui va être prise. Donc, l'ordre de définition est important. Un petit exemple. Donc là, on a un hôte qui va utiliser les templates Linux, Web et Prod, qui sont en fait ceux qu'on a déjà à peu près définis. Et qu'est-ce qu'on va obtenir réellement? Le paramètre check commande du template Linux, le contact group du Web, la notification période de la Prod. Ça permet de factoriser encore plus la configuration, l'administrateur commence à être content. Maintenant, on va essayer de... Donc là, en fait, c'est très bien pour l'héritage du mail, un autre hérite d'un autre, un service hérite d'un service. Les administrateurs, ils leur font encore plus. On est parti d'un... Enfin, ils sont partis d'un constat simple. Pourquoi redéfinir sur un service quelque chose qu'on a déjà configuré sur l'autre sur lequel il s'applique? C'est une duplication d'information. Pourquoi? Ça sert à rien. Donc, tout simplement, si le paramètre n'est pas rempli sur le service, la valeur qui va être prise, c'est celle de l'autre. Ça a l'air de rien, mais grâce à ça, on disparaît beaucoup, beaucoup moins de services. Malheureusement, c'est disponible principalement pour les paramètres de notification. Vous l'avez plus pour longtemps. Un petit exemple. Donc là, par exemple, on a deux autres web et file serveur qui ont leur propre contact. On définit un service qui s'applique sur les deux. Tu vas checker tout simplement si le service est bien ou non. Enfin, voilà, si en fait, voilà, ça s'achève. On ne définit pas les contacts, qui normalement est une valeur obligatoire. La GIOS, lorsqu'il va créer les deux services réellement en mémoire, il va donc créer deux services, parce qu'on a un service qui s'applique sur deux autres, et il va remplir les contacts avec ceux des autres. Si on n'utilisait pas ça, on n'aurait plus besoin de définir deux services. Là, on en a fini. Alors, ensuite, finalement, la technique est la moins impressionnante, mais la plus utile. Surtout pour faire beaucoup d'erreurs. Tout simplement, on va définir des groupes d'hôtes. Typiquement, vous faites un groupe Linux, vous faites un groupe Windows, vous faites un groupe Router. Et vous appliquez vos services dessus. Ça va automatiquement appliquer les services sur toutes les machines qui sont dans les groupes. Avec les mêmes techniques d'héritage qui vont être applicables. Comme ça, vous êtes sûr que si en fait vous rajoutez un hôte dans un groupe, tous les services qui sont rattachés seront définis. Sinon, vous allez être sûr qu'à un moment vous allez en oublier un ou deux au passage. Comme ça, vous avez beaucoup moins de comptes, vous n'avez juste à gérer les groupes. Ça fait quand même beaucoup moins de boulot. Vous n'avez même plus à gérer après les services. Ça fait beaucoup moins de comptes. Utiliser tout ensemble ces techniques qui permettent de passer approximativement de 60 000 de code à 7 000. Il faut quand même définir les autres, finalement, il faut quand même quelques lignes. 7 000, c'est gérable. finalement, l'administrateur, il est plutôt content. Là où l'administrateur est moins content, c'est par la suite. Donc, un logos est un démon qui lit des fichiers plats. Et en fait, à partir de là, on a tout dit. Donc, tout simplement, un logos, si vous lui mettez. Alors, parfois, on nous demande combien est-ce qu'un logos peut superviser d'autres. La question est mal posée en fait. C'est combien un logos peut-il effectuer de vérification en 1 ou 5 minutes. C'est ça en fait la vraie question. En fait, il peut en faire 10 000 en 5 minutes. L'ordre de grandeur, ça dépend des sondes, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur, ça pourrait évoquer ça. Le problème, c'est 10 000, ça peut vite être atteint quand même. Moi, par exemple, je suis dans une PME de taille moyenne, et j'en suis pas loin. Ceux qui sont de taille supérieure, ils ne peuvent pas avoir un seul logos. S'ils veulent plus de performance, il faut en avoir plusieurs. Malheureusement, ça n'a pas été pensé au départ dans les logos. Les logos, c'est un démon monolithique qui ne connaît pas ceux qui sont mis à côté de lui. Il est tout seul au monde, on peut un peu comme vous. Finalement, ça va poser des gros problèmes de gestion de configuration et de data. On va voir par la suite. Là, sur la partie qui va venir, je vais passer très vite sur les slides. Tout simplement parce que, croyez-moi, vous n'avez jamais utilisé cette technique-là. Je vous l'assure. Alors, si on est un vrai de vrai de la barre de partout, on fait ça à la même. Donc on met plus dans la chose, on gère la configuration avec BI, on a un vrai de vrai. Et donc sur trois serveurs différents, on récupère des fichiers de statut qu'il faut agréger. Donc finalement, là, ça va être du SCP partout, il va y avoir du Chrome de partout, votre chef qui va vous tuer. Parce que ça après, c'est ingérable. Vous voyez, moi, ça c'est. On n'a pas la peine d'y penser. Ensuite, on va se dire, ça se trouve, la charge, le point de ligne, c'est peut-être finalement le point de lancer les sondes. Donc pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit un démon extérieur qui les lance? Il va récupérer les sondes avancées, il les lance, il retourne le résultat. Parfait. Pas de bol, le point de contention n'est pas là. Le point de contention, il est là, lui. Il écrit toujours les fichiers là, qui sont lui. Vous devez passer par les lignes, check. Pas de bol. Et en plus, c'est super chiant en général. Alors, là en fait, c'est pour faire l'agrégation des données. On va se dire, ouais, on va tout envoyer dans la base de données. Petit problème, la base de données NGOS qui s'appelle NDO n'est plus maintenue. Un schéma, ça devrait être interdit. Et qui a des paires calmes, tout simplement, sur le schéma NDO. Pas de problème. Donc, au moins, vous n'avez plus le problème des fichiers statut. Par contre, vous devez toujours gérer la configuration. La principale charge pour un administrateur de logos, c'est gérer la configuration. Donc, ce point-là, en fait, c'est pas grand-chose. Ensuite, il y a Centrion, qui a pas mal avancé les choses. En fait, il vous simplifie l'histoire du SCP. Vous avez une page web, parce que. Certains n'aiment pas le dire. Qui écrit dans cette base MySQL tous les objets, les autres, les services, les contacts, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a besoin. Les autres vont être accrochés à des couleurs. Un autre, un couleur, pas l'ensemble du contrat. Le problème, c'est que c'est un peu trop lié, justement. Si en fait, vous devez rajouter un mot, vous êtes fou là. Les trois n'ont juste pour un. Vous devez rajouter un nouveau service. Vous allez peut-être en ouvrir un nouveau, mais avec le service là-bas. Hein. Pas de chance, le service dépend d'un autre qui se trouve là. Si vous lancez l'autre ici, le service là, en fait, vous n'arrivez pas assez à le lancer. Un ajout a besoin de toutes les dépendances au sein de lui-même. Comment faire ce découpage? Eh bien, il s'entraîne le faire à la main. Et lorsqu'on a 10 000 routes et 50 000 services qui dépendent les uns des autres de tous les sens avec une gestion d'héritage de tous les côtés, c'est ingérable. Donc c'était une bonne idée. En plus, elle utilise la base NDO, mais bientôt ça ne l'utilisera plus. C'est une bonne idée, mais qui n'a pas été assez loin. Mais si par contre vous devez partir en production demain sur un environnement distribué, utilisez ça. C'est le seul qui tient la route comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à la partie au dispo, parce que c'est bien, mais la loi de marché, c'est allé, hein, ça peut que merder. Une solution supervision. Et là, pour voir si les autres éléments n'ont pas quelques problèmes. Mettez-les en nous. Sauf que le deuxième n'a pas les notifications, n'envoie pas les mails, tout simplement. Donc les mails en soi plus là. Le second vérifie que le premier est en ligne. Si le premier ne répond plus, tout simplement il active ses notifications. Donc les mails partiront. Deux. Donc c'est bien beau, mais lorsqu'on a une archive distribuée, bah, ça fait deux fois plus de nageuses. Moi je dirais, ça ne résout pas le problème des configurations. Ça fait deux fois plus de charges sur le réseau. Vous avez notre réseau, il est donc. Actif passif. Standard, lui, en fait, il faut bien entendre que les nageuses entre eux ne se connaissent pas, ils ne savent même pas qu'ils existent. Donc pour l'autre, c'était un simple service. Lui, il est sur le monde, très bien. On a un petit lui qui tourne, mais il lance pas les commandes. On lui a dit, les services et les autres, tu les supervises pas. Il fait rien avec. On a un petit Chrome, parce que vu que lui, je parle avec quelqu'un, parce que l'application, il lance un check. Si en fait l'autre est répondu, ah, vas-y, relance-toi. Ça a l'air bien comme ça, mais le problème, c'est que lorsque le second se relance, ben, il est vide, il n'a aucune info, il n'a aucun fichier d'état, machin. Le fichier d'état, qui est encore un fichier blanc, est écrit par le premier. Et ben, il doit être partagé sur du NFS pour le second. Sauf que ce fichier il peut faire 50 mégaoctets, écrit toutes les minutes sur du NFS. 50 mégas encore, je vous l'en dis. C'est inutilisable. Pas de problème. Si en plus, on veut mettre la couche distribuée pour les différents cas, gérer à la main ce qui est déjà commencé encore pire, c'est possible. DNX, c'était très compliqué. Toujours. NDO, alors le problème c'est que si on a deux démons qui se croient le seul et qui écrivent en base avec le même ID, ça va poser des soucis. Donc il faut dropper des connexions de partout, les pétards, comme ça va être une horreur. Sans prénom, ce n'est pas géré. Voilà. Donc finalement, la JOS, bah, c'est pas un monde de bisounours. La gestion de la compte, elle est bien. Sincèrement, j'ai été impressionné. On n'en fait plus, on dirait l'objet. On dirait plus. Donc finalement, le vrai problème, c'est que les environnements distribués n'ont pas été pensés dès le début par la JOS. En fait, on ne peut pas lui en vouloir, il a été créé il y a 10 ans. À cette époque, on pensait qu'il y en avait moins, il pouvait déployer tout ça. Ouais, on lit des fichiers, c'est pas le cas. Donc finalement, on a des petits soucis techniques. Le code est une horreur à lire. Lorsqu'il y a des fonctions qui dépassent les millilignes, on ne regarde pas, tout simplement, parce que je m'en courage pas. Je ne pourrais pas accepter ces patrons. Il y a des concurrents qui sont sérieux, sincèrement. Regardez, vous êtes mauvais seulement parce que c'est pas vraiment lié. Les Alex, on t'a dit que c'est pas mal. Dommage qu'il n'y a pas une grande communauté autour. Ensuite, il y a des petits problèmes avec le copyright Majos. On en reparlera après. Tout simplement, en fait, on peut demander si le projet Nagios passe pas de l'open source à l'open core. Donc l'open core, simplement, c'est le noyau de la solution libre. Tout ce qu'il y a autour, c'est libre privatif. Le problème, c'est que le jour où vous voulez apporter un patch sur la partie libre qui fait une fonction de la solution privatrice, est-ce que vous croyez que l'utilisateur va accepter le patch? Il faut vous approcher. Et c'est exactement ce qui se passe avec Nagios. Nagios, c'est pas l'auteur. Il est bien comme il est. Je vais vous présenter les slides, on en reparlera après. Le problème, c'est qu'il est en train de bâtir une solution privée tout autour. La JOS XI. C'est son droit, on ne va pas lui demander. Le problème, c'est qu'il gère encore le NageOS Open. C'est pas bon pour le futur, ça. Toutes les innovations, elles vont être dans la partie privatrice. Parce que pour lui, le plan ne marche pas. On peut se dire, ouais, il y a un fork l'année dernière. Il signe. Le fork, il n'était pas très rigolo. Hein. Ils ont le droit également. Mais ils n'auraient pas dû. Parce qu'en en fait, ils ont ajouté un nouveau nom. Ils ont pris une jolie interface web. Et le cœur n'a pas bougé. On se demande un peu pourquoi ils ont forké en fait. Donc finalement, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est une solution monitoring qui fonctionne un peu comme ça. Comme sur tous les slides qu'on voit des mails du marketing, cloud computing. Moi je veux ça, mais pour le monde de la supervision. Typiquement, vous avez une configuration. C'est tout. Vous définissez vos autres services, rien d'autre. C'est déjà assez chiant à gérer comme ça. la bouffe distribuée. Vous définissez en fait un gros pool de ressources. Ça va être distribué dessus, découpé, distribué, c'est magique. Et les données vont être centralisées. C'est parfait. Si vous avez besoin de plus de ressources, là vous en rajoutez. C'est du cloud. C'est magique. Vous relancez et ça marche. Donc c'est un système. Mais comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce but? Déjà, on ne peut plus être monolithique. Parce que forcément, envoyer la conf, découper la conf, gérer l'ordre de lancement, lancer les sons, envoyer les mails, gérer les données, c'est pas ça quoi. Il y a un problème. Chaque tâche doit avoir son outil. On va noter arbitre, celui qui lit la conf, la découpe, la déploie. Ordonnanceur, ça va être celui qui va ordonnancer et c'est tout. Il ne va pas lancer les sons. Les pouleurs, c'est un petit peu comme des LX, c'est eux qui vont faire le boulot de lancer les sons et retourner les résultats. Les actionneurs, c'est un autre démon qui veut simplement lancer les notifications. Le broker, c'est lui qui va prendre toutes les données et les exploiter. Petite illustration, le début c'est un peu long. On a une grosse boucle. On a N ordonnanceurs. Ce démon-là, la découpe, la gonfle en N, en respectant les relations de dépendance. C'est très important. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier pour combien il y en a, vous en rajoutez, vous allez plutôt prendre plus. On les envoie. Les pouleurs qui eux vont faire le boulot, vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Ils vont prendre le boulot sur tous les schedules. Ils vont prendre les checks, les lancer, retourner le résultat. Là par exemple, ça se passe bien. Là, l'état critique, c'est pas bon. Il faut lever une alerte. Ça va être récupéré par le actionnaire. Il y en a qui marquent, parce que finalement il ne fait pas grand chose, juste envoyer des mails. Hein. Donc il envoie le mail, les schedulers, il génère les données finalement, ce serait bien de les mettre en place. Il génère les données, qui sont récupérées par ce démon-là, qui lui va se charger de les présenter en base, et autres, et tout ce qu'on gère les données. Ensuite, on peut se poser la question comment ça va se passer si en fait il y a un outil là. Typiquement, les ordonnanceurs. La conf a été divisée en n parties. Scheduler 1 gère la conf 1, scheduler 2 la conf 2, scheduler n la conf n. Et finalement, on va peut-être en définir un peu plus. On va définir un sphère et un second sphère. Bon, ça, si on en a un. Si on en a un qui tombe, lui, l'arbitre, il va vérifier que tout le monde est en vie. Si ce n'est pas le cas, il réattribue la conf à un sphère. Tout simplement. C'est tout simple, et ça marche. Eux sont mis à jour de la nouvelle adresse de la conf, vont se connecter, vont continuer de bouger comme si de rien n'était. Ensuite, on se dit, bon, l'application à l'heure actuelle peut plus permettre de plus être multiplateforme. Donc on va supposer qu'elle est. Qu'est-ce que ça peut dire pour les pouleurs? Les pouleurs, ils peuvent tourner le Linux, Windows, et autres OS, un petit peu ça. Est-ce que ça serait pas bien de pouvoir taguer les commandes? Une commande, elle peut tourner sur un Linux, mais ça se trouve qu'on voit bien quand c'est des commandes sur un Windows. Et bien, t'as bon, la commande en disant toi, tu tournes sur Linux, toi, tu tournes sur Windows. Et les pouleurs qui sont sur Linux vont récupérer les données des commandes en Linux. Les pouleurs qui sont sur Windows, ils prennent les commandes Windows, tout simplement, parce que dans la conf, on va les taguer. On dit toi, t'as un Windows, toi, t'as un Linux. C'est aussi applicable, en fait, pour les différents réseaux. Après tout, c'est une donnée du pouleur. T'es capable de faire ça. Et bien toi, t'es capable de superviser les machines de LAN, et toi, t'es capable de superviser les machines de LAN NZ. Parce que vous allez taguer les commandes, et vous pouvez, pourquoi pas, taguer les machines. Et une machine de la DNZ, une machine du LAN. La machine de la DNZ sera supervisée qu'avec les pouleurs de la DNZ. Machine du LAN, et puis ainsi de suite. Alors. C'est bien, mais il manque un truc. Imaginons un cas. On a un pouleur, celui qui lance les sons, qui est situé en Asie, qui prend un check à effectuer sur un serveur aux US. Ça commence mal. Et il prend son ordre d'un ordre de lanceur qui se trouve en Europe. Alors là, autant vous dire que ça, jamais ça marche. Il va forcément arriver à un timeout. Ça, c'est un peu. Deuxième cas. Vous êtes une société qui supervise les machines d'autres sociétés. Vous avez un trader dans la société A. Vous avez une seule coupe pour tout le monde. Vous ne faites pas chier. Une seule coupe. Vous avez un trader chez une société A. Et il y a un skipper dans la société B. Jamais les deux ils vont accepter de dialoguer ensemble. Hein. Ça se trouve, c'est des concurrents, ils ne vont pas trop s'aider. Il faut un moyen pour gérer les sites et que ce soit cloisonné à l'intérieur. Un petit peu, en fait, les différents nuages qu'on a vu au début, quoi. Donc, multisite, c'est bien, mais si on a toujours la possibilité d'avoir un point d'administration et un point de données, si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle des royaumes. On pourra avoir quelques exemples par la suite. Un royaume, ça peut être vu comme un gros pack de ressources. C'était le nuage de tout à l'heure. Et là, au lieu d'avoir un nuage, vous en avez plusieurs. Tout simplement. Vous allez accrocher vos autres, vos groupes d'hôtes, à un nuage. Tout simplement. Et ça va distribuer la charge au sein du nuage lui-même. Comme ça, bien sûr, ça va passer de la DM. Donc, c'est un moyen de découper, en fait, vraiment par moyen organisationnel et non plus simplement technique. Vous pouvez définir des hiérarchies. On va voir par la suite pourquoi est-ce que c'est utile. Vous avez toujours un seul ordre, bien sûr. Voici un petit peu de. Là, je me suis fait plaisir sur les nuages. On a un petit nuage en Europe. Voilà. Donc, il y a beaucoup de machines en Europe. Il y a quelques petits serveurs sur Paris, parce que c'est la direction générale. Vous définissez un royaume d'Europe et un sous-royaume Paris. Vous taguez les machines. Tu es une machine européenne. Toi, tu es une machine à part. Voilà. Vous faites pareil aux US et en Asie. Toi, tu es une machine US, toi, tu es une machine Asie. Les machines vont être automatiquement envoyées sur les bons skippers et supervisées par les couleurs qui sont juste à côté. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas traverser les réseaux partout, ça ne va pas faire des time out de l'autre côté. Là, dans vos filiales, dans vos différents noms, vous voulez que les données restent en local. Vous avez toujours un seul arbre, important, une seule donnée. Les mails vont partir de l'Europe pour les serveurs européens, parce que lui va vérifier les alertes de tout ce qui se trouve dans l'Europe et en dessous. Par les US, par les Asie, les mails partent ici, les mails partent par là. De même pour les données, même fonctionnement. Les données US restent en US, Asie, ça reste en Asie, l'Europe, ça reste en Europe. Mais ça rappelle, ça marche. Mais ça se trouve, en fait, vous voulez tout centraliser. Donc là, après, vous avez ça, imaginons, en fait, je ne sais pas, au hasard, ça va coûter 3 ou 4 lignes de compte pour ajouter un nouveau nuage, et on le pose. Donc simplement, vous définissez, vous dites, mes fils, c'est l'Europe, Asie, États-Unis. Et bien là, vos actionnaires, celui qui ont les mêmes, vous en définissez bien, tu dis, t'es dans le monde. Toi, gestionnaire de données, t'es attaché au monde. Et tout simplement, et bien, il va prendre du contrôle les données de tout ce qui est en dessous. Vous allez centraliser vos comptes, vos envois de mails, trois lignes de compte. Ça, en fait, c'est vraiment l'idéal. Donc, grosso modo, vous avez écrit un monde qui est plutôt sympa. Quoi. Un monde que d'habitude, on ne voit que dans les sphères. On voit juste ça au moment où il y a un commercial qui vient avec un sourire grand comme ça. Vous entendez, il entend déjà les billets voler. Moi, j'aimerais une appli monitoring qui fasse du cloud. J'aimerais une appli qui soit multi-plateforme. J'aimerais une appli qui fasse de l'UTF8. J'aimerais, en fait, je pense que vous avez envie aussi, quoi. Alors, en fait, c'est pas la peine de rêver, ça existe déjà. Chinken. Alors, c'est un projet avec une histoire un peu bizarre. C'est parti comme une preuve de concept pour la JOS, purement technique. Preuve de concept, il fallait un langage qui soit rapide à développer. J'ai commencé en Python. Malheureusement, je me suis aperçu que les pertes étaient monstrueusement élevées. J'ai repris les tests pendant une journée, mais c'était toujours le cas. Savez-vous ce qu'est ceci? C'est un IPC. C'est un truc qui rame comme c'est pas permis. C'est un truc qui a même du mal à gérer AirPods, mais en même temps, même un réflexe a du mal à gérer AirPods. En fait, c'est pas qu'un IPC, c'est le prochain serveur de supervision. Là-dessus, je vais tourner ma conf prod, qui d'habitude me demande un serveur complet. Bah là, ça tourne là-dessus. Tout simplement. Tout simplement parce que je n'utilise pas les fichiers là. Je viens d'élever, j'utilise les objets. C'est du Python. C'est donc multiplateforme. Qui me dit un iPhone, je lui envoie le nom squat dans la tête. Un HTC Android. Sur Android, on peut mettre Python. Sur Python, on peut mettre Shintel. Ceci est une ressource pour le cluster de FireVision. Simplement. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu de bon, finalement, j'ai présenté les idées au joueur de la JOS. Pas de bol. Il était plus facile de finir ce que j'avais commencé plutôt que d'apporter toutes mes idées dans C. En plus, elle a écrit, si vous avez tout. C'est un petit peu trop tard pour s'arrêter. Donc, j'ai fait plusieurs propositions. D'abord, je suis poli, je fais ça en August. Parce que nos odeurs, mais là, j'aurais toujours dit que je travaillais là-dessus. Et ils m'ont pas répondu. En fait, c'est une constante avec l'odeur de la JOS. Et en fait, après, j'ai fait une proposition sur un mini-liste, et la réponse a été claire. Je veux faire un MVP, il va laisser ce second couteau au cœur. La réponse a été, grosso modo, non. En même temps, je les comprends, c'est du Python, c'est original, ça règle tous les problèmes, ils ne sont pas contents, parce que moi j'ai fait 120 ans, donc ça fait 10 ans qu'ils sont. Pas de bol. Alors, qu'est-ce qu'il est aussi capable de l'outil ? Tout simplement, il peut exporter les données dans toutes les bases qu'on utilise avec la JOS, comme ça vous pouvez continuer à utiliser vos autres outils. S'entraînant du jazz, sorry. J'ai même rajouté du bouche DB, parce que c'est un beau. Ah oui, je centralise les fichiers de log pour ce monde. On va envie de plier le CPU en tout cas. Comment est-ce qu'on peut considérer ce projet ? Ce n'est pas un fork. Attention, parce que, en fait, les idées sont les mêmes. La conf est la même. Les plugins sont les mêmes. Il n'y a pas une seule ligne de code en commun. Malheureusement, quand on dit fork, on comprend duplication du code. C'est pas le cas. Si j'avais dupliqué, j'aurais pas les bonnes versions. Qu'est-ce que Shintel ? C'est un nouvel outil de monitoring compatible avec la configuration de la JOS et les plugins, tout simplement. Ce n'est pas un fork, surtout que quand on utilise fork looker, c'est n'importe quoi. Maintenant, vous avez tous envie de tester, j'espère. Vous allez choper les sources, vous les tarez, vous lancez. Peu importe, vous manquerez pas, pour la marche. Mais. Moi, la fin de journée, c'est un peu trop long. Donc vous prenez la démo, une VM de démo, vous l'avancez, puis ça marche pas rien. Ça, faut être efficace dans le sur le site officiel. D'ailleurs, merci à Monitoring.fr hein, pour avoir resté la VM, parce que sur nous, ça, c'est un petit OVH, 24 euros par an. Vous n'avez pas les moyens. Justement, par exemple, Monitoring.fr, vous vous souvenez pourquoi est-ce que j'ai mis ceci partout où j'ai mis la JOS sur la présentation? Il n'y en a pas un qui traîne, il n'y a pas quelqu'un. Parce que l'auteur ne blague pas avec ça. Ne blaguez pas avec lui. Il est beaucoup plus fort que vous, je l'ai. Tous les projets concurrentiels un petit peu costauds dans la communauté, il les brise. Il a encore essayé pas longtemps avec Shinken. Et je crois qu'il est sorti. Finalement, la communauté, ça fait nageuse.fr, elle a parlé du fort qui s'y vient, même pas en plus pour garder les gens qui restent. Ça n'a pas pu à l'auteur, ça s'est envenimé de l'autre côté. C'est dommage. Finalement, ça s'appelle Monitoring des femmes. C'est pas plus mal, c'est un nouveau départ, comme ça on est plus suivant. L'une des moins, nous on est plus, en fait. Venez voir nos démos, on est sûr, on est perdu au fin fond là-bas sur les 60 dégâts. Donc, un grand merci à ma femme pour avoir fait le diagramme, parce que sinon ça serait invitable, vraiment. Merci aussi au deuxième auteur de Shinken, qui s'appelle Gerhard Closer, qui n'est malheureusement pas ici, mais qui fait un. Qui m'aide bien, qui débusque mes bugs, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous en ai donné quelques-unes en exemple, sachant qu'il y a un troll qui se cache en plein milieu. À vous le troll. Voilà, merci. Merci pour l'aide. Si en fait, vous voulez plus de comptes sur Shinken, des articles qui en parlent, en allemand, en main, en américain, en anglais, et l'autre en français qui sort justement ce principe, donc lâchez-le. Voilà. Une dernière question. Ah. Vas-y. Oui. Oui. Si en fait on n'a aucune, t'as bien vu. Heureusement, toutes les parties, tu peux mettre un scale. Typiquement, pour les scheduleurs suivants qu'on attendait, bah, t'en es plus ou moins, comme du rayon, peut-être celle dans le large ou l'autre. Couleur, pareil, même système. Actionneur, tu peux en mettre que deux. Le chassin, tu n'as pas besoin de faire. Broker, pareil, il n'y a pas besoin de faire. Armiteur, pareil, en mettre. C'est ça. Donc si en fait, tu as bien fait Master Expert, tu n'as pas de problème. Va prendre, va dire, va se dire pour aux autres, va être plus bon, etc. Pas de question ? C'est le module Python qui s'appelle Pyro. C'est un très bon module que je conseille sincèrement. Donc ça s'appelle simplement, c'est un module d'objets distribués, très efficace. Et la compilation du SSL, du téléphone par les lignes. Voilà, ça, en plus c'est pur Python, ce qui fait que vous n'avez jamais, vous pouvez, tu vois, par exemple sur l'autre, j'ai des copier-coller et c'est arrivé quoi. C'est un web, même lui. Alors, un autre. Alors, pourquoi Python ? Bah, comme je l'ai dit, en fait, le projet a démarré comme une preuve de concept. Simplement, donc, il fallait un langage rapide à développer. Je commençais à bien connaître le Python, je suis parti dessus. J'aurais pu prendre d'autres trucs qui, en avance, sont un peu plus faits pour les distribuer, genre des vraiment des trucs comme ça, mais je ne le connaissais pas. Ça aurait été ignorable. Et vu que Python, mine de rien, il commence à avoir pas mal d'adeptes, il y a plein de projets qui sont dessus, et c'est pas pour rien pour les gens. Si vous voulez prendre, regardez, voilà. Donc, sincèrement, le Python, je ne regrette pas. Certains me disent que les perles sont problématiques en Python. Non. Si vous faites une mauvaise archi de merde des fichiers perles, oui, ce sera une horreur. Donc, ce sera une horreur aussi lancée. Ça consommera un peu plus de RAM. Un poil plus. C'est vrai. Maintenant, le RAM, c'est pas cher. Donc, lâchez-vous vraiment sur le Python. C'est vraiment. C'est bon. Ensuite. Pourquoi l'Arfero GPL ? Alors, ceux qui n'ont pas suivi toutes les histoires de GPL. Imaginons que vous êtes une société qui est supervisée par une autre. Allez. Si en fait l'appli était faite en GPL standard, l'application est située sur le serveur du prestataire. Vous pouvez demander les sources pour les objets. Si vous faites en Arfero, dites hey, il y a une interaction réseau avec chez moi là. Non, non, je veux les sources. Vu que je n'utilise pas une ligne de code et une AGO, ce qui peut me permettre de changer les licences. Tant qu'à faire, autant prendre celle qui est la plus permissible pour les utilisateurs. Et sincèrement, après avoir lu ça, le char Stallman, vous ne pouvez pas choisir autre chose. Sincèrement. Même si ça n'est plus à l'auteur d'une AGO, vous avez trouvé. Pourquoi le nom Shinken ? Shinken est simplement le nom donné aux katana qui sont utilisés en combat, ça découpe un homme comme du beurre. Voilà, tout simplement, c'est votre oncle qui va découper tous les morceaux. C'est pour ça. En plus, j'aimais bien mon nom, je l'ai fait. Il n'était pas pris, je vais en avoir compte. Dernier point, IMAX. Pourquoi ? Parce que IMAX. Point.
Vous ?
Est-ce que si je vois ça, est-ce que les.
Ah oui, normalement, en fait, pour remplacer, c'est de base, le premier point de jeu, c'est parce qu'on doit pouvoir porter le même pareil sur tout ce qui est check actif, check passif, lecture du pack de données. Vous ne verrez pas la différence. On rajoute plusieurs démons. En rajoutant quelques lignes de compte, vous allez marcher distribué facilement. Mais ça, de base, ça se comporte pareil. Prenez, sincèrement, faites le test. Vous prenez votre configuration de jeu, vous le mettez, vous copiez-coller, vous lancez la vie. Ça va marcher pareil. J'ai fait, ça marche au niveau de propre. Ça va vraiment marcher. Rajoutez quelques lignes de compte et vous aurez un environnement distribué. On va commencer. Ouais, c'est pas bien.
Est-ce que quand tu as écrit le code, tu as écrit le test ?
Mon collègue, non. J'ai un peu du mal avec ça. La version, donc là, en fait, la version 0.1 est sortie. Je vous conseille de l'utiliser en prod, même si c'est stable. Hein. Mais moi, je ne l'ai toujours pas utilisé en prod. Attendez quand même de jouer, parce que c'est pas sérieux. La version 0.2 qui est en cours de développement, qui devrait sortir allez, dans 2 mois, c'est tout ce qui est industrialisation, chasse de bugs, tout comme ça. Donc là, oui, il y aura plein de tests unitaires de partout. Et sincèrement, on a déjà fait. Enfin, sincèrement, on a vu plein de trucs comme ça. Donc, je vais m'y mettre ici, hein, il faut bien.
Quel est le futur
du test ? Peut-être un roadmap ? Oui, alors, la 0.2, c'est l'industrialisation. Il y a des paquets. Voilà. vraiment que ce soit là pour l'instant, typiquement, il y a encore des cercés dans les chemins, c'est pas très beau, c'est un peu bordel. Tout est non cercé, tout simplement. Et ça marche. Donc, est-ce que j'aimerais avoir un vrai layout pour les distributions, parce que c'est pas la gueule, alors qu'on peut le faire un peu. Donc la 0.2, c'est ça, plus les tests unitaires. La 0.3, alors Shinken ne fait pas tout ce que fait Nagios, mais je suis persuadé que ce qu'il ne fait pas, vous ne le faites pas non plus. Comme ça, mais bon, ça se trouve certains l'utilisent, donc pour, c'est vraiment des points à la marge qui ne servent à personne, mais qui auraient quand même été faire un joint. Donc on va le faire dans la 0.3. Il n'y a pas grand chose, ce sera un peu. La 0.4, donc ça, c'est à peu près le début de l'année. Là, par contre, on se remet à avancer, et peu importe si Nagios ne suit pas derrière. C'est plus mon problème. Il n'avance pas depuis 3 ans, donc je ne vais pas attendre qu'il avance enfin. Donc là, typiquement, vous pouvez vous attendre à des nouveaux modules d'export. Par exemple, des petits codes genre si en fait la base n'est plus dispo, ben, il descend que, et ça revient à bouffe, il lit. Ou une notion qui est assez sympa, celle de problème immersivant. Alors, ça se trouve, ça vous parle peut-être des titines, hein. Ben, c'est exactement.
Une question parce qu'au projet concurrent, en fait, je pense par exemple à un arbre Java de garder un
Java, je ne le vois pas.
Parce qu'il fait quelque chose de très similaire. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, bon, il a fait un peu billet pendant tout le temps, mais sinon le concept.
C'est dommage pour lui, c'est pareil, c'est du temps pour nous. Mais je vais regarder, ça se trouve, on peut peut-être échanger des idées sur le principe. Ensuite, moi, le principal intérêt, c'est quand même la compatibilité avec Nagios. Que lui,
ouais. Il me semble que c'est la même chose. En tout cas, les plugins, c'est.
Ah, les plugins, oui, parce qu'en général, la configuration, parce que en tant qu'administrateur Nagios, je ne vois pas refaire ma configuration, sincèrement. Pour moi, il faut l'outil d'agir nativement. Il y a énormément de valeur ajoutée dans la dernière configuration. C'est on ne voit pas, mais en fait, c'est un gros processus pour aller là-dedans. Donc, il faut pouvoir la garder. Ensuite, après, on ne peut pas la transformer. Et je vais regarder si vous pouvez utiliser un peu aussi. Mais... En plus, c'est peut-être pour RAM.
D'autres questions ?
C'est pourquoi une version stable qu'on peut utiliser un peu ?
L'année prochaine, au début de l'année prochaine, pour la 0.4. Déjà, je vais l'utiliser en proche chez moi. On verra. Si après, par contre, vous voulez tester sur vos environnements Kali ou dans des machines virtuelles, faites-le. Sincèrement, faites-le. Ça coûte rien, ça pourra pas coûter. Merci beaucoup.